Donc bonjour à tous. Alors effectivement, l'idée là, c'est de vous faire un retour sur le projet qui a été soutenu, qu'on avait déposé en partenariat avec l'Université de Caen, sur un outil pour Moodle, un plugin servant à développer, automatiser le suivi des stagiaires pour la formation continue, je vais préciser lesquels, à distance. Et donc c'est effectivement un projet soutenu par l'AMI de 2016. Donc, puisqu'il est soutenu par l'AMI 2016, ce que je vais présenter, ça a vocation à être distribué en open source pour tout le monde. C'est-à-dire, c'est bien ça le principe, hein, le ministère finance des protocoles ou des dispositifs en vue d'une généralisation. Donc, ce que je vais vous présenter là, on travaille sur le projet, on a plusieurs partenaires, mais dans un an, j'espère, qui sera déposé en open source et que tout le monde pourra l'utiliser. Alors, effectivement, on avait un très bel exemple tout à l'heure de problématique centrale. Ça va pas? Ah, on m'entend pas. Peut-être appuyer. Mais c'est parce qu'en fait, il n'est pas dirigé. Je suis trop grand.
Là, ça va être assez simple, comme ça, tu as la liberté de mouvement.
Ah, ok, d'accord. Bon, c'est mieux. Donc, on avait un exemple tout à l'heure très intéressant de relation entre voilà, des stagiaires inscrits dans un parcours de formation continue qui suivent une formation à distance. C'est une situation qui se répète de plus en plus, heureusement. La formation continue, nos services de formation continue universitaire ont bien compris l'enjeu d'aller proposer des formations plus flexibles aux entreprises, de développer avec elles des partenariats, d'inscrire finalement cette modalité particulière de la distance comme une modalité presque normale finalement aujourd'hui de la formation continue. Or, on a parallèlement à ce développement qui est tout à fait d'actualité aujourd'hui, une problématique législative en parallèle. C'est-à-dire qu'on a une loi qui était passée. Alors, cette loi, c'est notamment le décret de 2014, hein, sur la réforme de la formation continue, qui précise bien aujourd'hui, et ça c'est le côté très positif des choses, qu'on peut désormais proposer pour un financement de formation une formation à distance. Ça, c'est vraiment acté dans la loi, donc ça devient possible. Tout devient possible à partir de là. On a par contre dans la loi des problématiques, et ça tous les services de formation continue sont très focalisés là-dessus aujourd'hui, de Datadog, de recherche de qualité. Comment attester de la qualité et de la réalisation des formations? Donc ça va bien au-delà de la formation à distance, hein. C'est surtout le process de formation de la formation continue pour, donc je rappelle, hein, c'est spécifique aux stagiaires qui sont financés par un organisme pour suivre une formation à l'université. D'accord? Donc ça ne concerne pas directement les stagiaires, évidemment pas en FI, pas non plus ceux qui font de la reprise d'études, c'est vraiment ceux qui ont un OPCA, par exemple, qui va financer leur formation, et qui donc, comme il y a un financeur, ça peut être une région également, le financeur attend de l'opérateur de formation des preuves de suivi de la formation. Et comme le disait Pierre, quand c'est une formation présentielle, on peut faire des feuilles de margement. Quand c'est une formation à distance, quelles sont les preuves qu'on peut fournir à l'OPCA que la formation a bien eu lieu sur les temps déterminés? Donc on est dans cette problématique-là. Alors comment ça se passe aujourd'hui? En fait, en amont de la formation, généralement, un service de formation continue, un opérateur va rédiger pour un étudiant, un stagiaire, un DIF, par exemple, donc un protocole en fait de formation, où il va devoir décrire tout ce qui va être, évidemment, les objectifs pédagogiques, mais les modalités proposées pour la formation, le découpage des séquences d'apprentissage, les modalités d'assistance, de tutorat, d'évaluation, enfin tout le descriptif de la formation que va suivre le stagiaire. Et en fin de formation, il est censé pouvoir fournir à l'OPCA les preuves que la formation a bien été réalisée. Certaines, d'ailleurs, par exemple, les régions ne payent tous les mois qu'au nombre d'heures réellement effectuées. Et ça, c'est important pour les services de formation continue, et quand même, ils veulent un peu récupérer le budget de la formation. Donc, on a aujourd'hui, nous, je ne sais pas comment vous faites chez vous, si certains d'entre vous sont dans les services de formation continue, nous, on essaye de fournir des stats de connexion, ce qui est quand même très moyen, parce qu'on sait très bien que ça ne veut pas dire grand-chose par rapport à la réalisation des activités, et c'est à peu près tout. Et éventuellement des feuilles d'émargement virtuelles, éventuellement des traces de notes, des notes à la fin. Ce n'est pas suffisant. Nous, ce qu'on veut, c'est produire une relation de confiance avec les OPCA, être dans un rapport de confiance et pouvoir fournir des preuves qui ont du sens en termes de formation, donc de la réalisation d'activités pédagogiques. Alors là, j'ai mis un exemple. Par exemple, vous voyez, ça, c'est un exemple de document administratif papier à fournir au démarrage d'une formation. Il y a le détail des séquences, il y a le savoir si les séquences sont à distance, pas à distance. Et puis, donc, c'est toute la première partie, vous ne voyez peut-être pas très bien ici, hein. La date de réalisation, les lieux de réalisation, les modalités d'évaluation, les modalités de suivi, les modalités d'apprentissage, etc., etc. Donc, c'est très détaillé, séquence par séquence. Et puis, la deuxième partie à droite, là, la séquence prévue a-t-elle été réalisée? Oui, non. est-ce qu'il y a eu atteinte des objectifs de la séquence, oui ou non. Donc en fait, on est là-dessus. Nous, comment, finalement, une fois que le travail est fait de description de la formation sous forme de séquence pédagogique et de réalisation, est-ce qu'elle a été faite, oui ou non. Donc ça, aujourd'hui, les services le font plus ou moins à la main lorsqu'ils doivent le faire. L'objectif du projet Attest Doodle, c'est donc de faciliter cette soumission éventuelle de l'organisme d'information. Comment justifier, faciliter cette justification de l'information en passant, on voudrait aussi que ça serve aussi, on en parlait tout à l'heure, il y avait un groupe là, pour les OPCA, et nous on travaille avec M. Rémy de la direction du travail sur aussi ce groupe-là pour faire créer dans les OPCA aussi une prise de conscience pour qu'ils harmonisent aussi la façon dont ils vont demander les traces à un établissement. Donc on fait un travail là-dessus. Et puis l'idée, c'est d'après de déployer tout ça dans les services de formation continue pour faciliter ça. Donc l'objet du projet, c'est de faire un plugin Moodle. On a commencé par un hackathon en janvier dernier. On a réuni une cinquantaine d'opérateurs de formation, d'OPCA, d'autres personnels, des services TIS notamment, qui interviennent. On a commencé à écrire le cahier des charges, je vais vous le présenter rapidement. On a un développeur qui arrive en août, qui a été recruté là, ce jour, et donc qui va travailler toute l'année là, sur le développement du plugin. Et donc on pense que le plugin sera disponible après test, évaluation, expérimentation, d'ici la fin de l'année prochaine. Alors, je passe là-dessus. Modalité de transfert, donc je l'ai dit, hein, c'est un module qui sera sur Moodle, d'accord, dans les versions Moodle, donc il sera un plugin sur Moodle et qui sera en accès libre. Hein, et bien sûr, après, il faudra le maintenir et le développer pour continuer à faire vivre sa vie, rajouter des fonctionnalités si besoin. Sur Moodle, on a le hackathon, le travail qu'on a mené jusqu'à présent nous font identifier plusieurs problèmes. Deux problèmes principaux. Dans Moodle, ce qui nous pose problème aujourd'hui, c'est le temps de formation associé à une activité. Parce qu'en fait, quand on fait un contrat de formation, il faut décrire, 3 heures pour telle partie, 2 heures pour telle partie. Or aujourd'hui, ceux qui utilisent Moodle le savent, il n'y a pas pour chaque activité un temps de formation associé. On a des traces de connexion, mais on n'a pas de temps de formation. Donc on va rajouter ce qu'on appelle un jalon. Alors d'ailleurs, le jalon, c'est un terme qu'on n'a pas inventé, qui a été repris dans les travaux justement autour de la formation continue, qui correspond à un groupe d'activités liées à la réalisation ou l'atteinte d'un objectif pédagogique. C'est-à-dire qu'on estime que c'est un temps prévisionnel d'apprentissage en fonction du temps, en fonction de l'objectif prévu. Hein. On ne dit pas que c'est le temps réellement passé, on dit que c'est ce qui est prévu au démarrage pour acquérir les fondamentaux de la trigonométrie, je ne sais quoi. Il faut 2 heures, hop, on fait une séquence et on met un jalon. Donc ces jalons, c'est la première chose qu'on va faire et permettre donc d'associer un temps d'apprentissage à une activité pédagogique. Le deuxième problème qu'on a, c'est l'identification des parcours de formation individuels. Alors là, c'est moins simple parce qu'en fait, chaque stagiaire de formation continue, il va avoir... c'est simple quand il est dans une formation monolithique, évidemment, il a 3 UE ou 4 UE à suivre, mais on peut imaginer des parcours beaucoup plus à la carte, avec de la validation d'acquis, des choses comme ça. Et donc, il faut pouvoir redécrire la trajectoire de l'individu, donc le parcours de formation. Là encore, c'est pas quelque chose, cette notion de parcours de formation qui existe vraiment dans Moodle, s'il y a des subterfuges qui permettent d'y arriver, mais on l'a pas vraiment. Donc nous, on a besoin d'un début, d'une date de fin et d'un parcours individuel de l'apprenant. Alors, par exemple, on peut imaginer des choses comme ça. Hein, on a commencé à travailler sur des choses comme ça. Donc, chaque stagiaire, il va falloir qu'on remplisse dans Moodle la formation suivie, la session de formation, le début, la fin de la formation. Bon, ça sera des choses à remplir en plus. Ce n'est pas le plus important, finalement. L'inscription du stagiaire, on n'a pas prévu de le faire. Ça sera automatiquement à chaque établissement d'inscrire leurs étudiants dans Moodle. Ils le font déjà. Par contre, on va certainement mettre une sorte de tag, quelque part, dans Moodle, pour suivre les étudiants. Et puis, les jalons, donc, c'est ça. Un jalon, c'est il faut qu'il soit identifié dans le cours, il faut qu'il ait un temps d'apprentissage associé, il faut qu'il y ait un moyen de validation. Voilà, c'est ça que nous, on a besoin absolument d'avoir. Que la validation soit automatique, suite à une action, tel stagiaire a fait telle réalisation, paf, on valide le jalon. Qu'elle soit conditionnée éventuellement à une série d'actions. On peut imaginer des jalons sous condition d'avoir fait les 3 d'avant, possible aussi. Et ou qu'elle soit manuelle éventuellement par stagiaire, je déclare, j'auto-déclare que j'ai fait ça, ou par l'équipe pédagogique, évidemment, qui, lui, va pouvoir attester que telle personne a bien réalisé ça. Par exemple, une classe virtuelle, évidemment, le prof, il peut dire, effectivement, il a suivi la classe virtuelle, ça peut être ça, par exemple. Donc ça, c'est des notions qui existent en Moodle, qu'on va réutiliser. Mais ça suppose, alors voilà un exemple, hein, par exemple, voilà, on peut imaginer une formation découpée comme ça, avec des durées estimées, et à la fin, il m'a 5 minutes, très bien, des temps de certifier, voilà, il a fait 5, 15, bon là, ça ne correspond pas, mais voilà, on peut imaginer des temps prévus, et puis à moins un temps certifié d'apprentissage, si c'est attesté. Je passe là-dessus, qu'est-ce que ça suppose? Ça suppose que chaque formation, tout ce qu'on vient de dire là, devra être parfaitement scénarisée. Ça, c'est un travail amont, qui est déjà fait, vous l'avez vu dans les documents fournis, mais ça suppose quand même qu'on ait des formations à distance très scénarisées, donc on va aussi vers une augmentation, finalement, de l'ingénierie pédagogique, de la scénarisation, ça oblige ça, finalement, on s'en est rendu compte. Et j'étais au colloque de la FCU la semaine dernière, il y avait beaucoup de collègues de formation continue, et ils me disaient, mais on va devoir demander aux enseignants le détail de leur déroulé pédagogique. Donc on sait qu'on n'a pas toujours, et donc là, c'est effectivement, oui, ça oblige à faire ça si on veut vraiment pouvoir rendre compte de la qualité pédagogique des enseignants, de la réalisation des activités. Alors, puisqu'il ne reste que 5 minutes, à la fin, ça donnerait ça. Comment attester les attestations? Donc, l'étudiant a suivi sa trajectoire d'apprentissage, il a suivi plusieurs UE, chaque UE est détaillé en jalons, il a validé ses jalons, et on pourrait, par période, tous les mois, par exemple, ou tous les ans, nous avons sélectionné l'étudiant, et on voit qu'ici, les étudiants, ils ont capitalisé 120 heures, 130 heures, ou 0 heure, potentiellement, ça peut arriver. Et puis là, donc, on va éditer l'attestation de formation pour l'OPCA, ce qui va permettre de obtenir le financement. Donc là, ça veut dire quoi, ce que je disais tout à l'heure, la scénarisation? Il va falloir des concepteurs pédagogiques en amont, qui déterminent les jalons, paramètres des temps d'apprentissage et étudient le moyen de validation du jalon. C'est le point d'entrée nécessaire. Donc voilà. Et puis après, des gestionnaires de formation qui vont devoir, qui vont pouvoir gérer les sessions, gérer les parcours et éditer les attestations. Voilà, je passe rapidement. On a identifié plusieurs risques qui ne sont pas simples à gérer. Une fois que la formation est commencée, est-ce qu'on peut encore modifier les jalons? Ça va créer des problèmes de cohérence entre les stagiaires. Évidemment, ce manque de scénarisation amont qu'on connaît tous dans nos établissements. Voilà, j'ai fini. Les partenaires du projet, c'est l'Université du Maine, l'Université de Caen. On est associé à plusieurs OPCA qui ont participé au projet, en tout cas sur le hackathon, qui sont intéressés par le suivi. La formation continue universitaire, donc le réseau de la FCU, et puis le réseau de la FIED. Et puis on travaille aussi avec un chercheur du LUM qui est spécialisé dans les EUH, puisque finalement, cet outil-là, ça renvoie à la problématique des Learning Analytics avec l'idée d'exploiter au maximum les traces réalisées sur les plateformes des étudiants. Voilà, en quelques mots.
C'est fini. Merci Nicolas, le temps pour une question.
Toujours la même.
Patrick.
Pas virtuel du tout. Un outil qu'on attend quasiment nombreux, le dernier Moodle Moot en était l'exemple, sur cet outil-là est très attendu par les utilisateurs de Moodle, mais à mon avis bien au-delà, avec une autre fonctionnalité qui me semble pas indissociable, mais ce serait du gâchis en gros de ne pas l'utiliser, c'est l'idée d'avoir un outil de suivi, mais côté enseignant, c'est-à-dire cet outil-là peut également permettre à l'enseignant de voir qu'un apprenant est en situation de décrochage. S'il a manqué un certain nombre de ses jalons, donc la question c'est est-ce que cet outil peut potentiellement être élargi dans son développement pour permettre d'avoir cette espèce de tableau de bord de suivi de la part de l'enseignant ou de l'équipe pédagogique et permettant de l'étendre à un outil de suivi de décrochage?
Alors, je vais répondre en deux temps. Si vous avez été au Moodle Moot, vous avez peut-être vu qu'on a fait une session où l'Université du Mans, on a développé un plugin de suivi justement des stagiaires, donc on l'a présenté au Moodle Moot. Et puis parallèlement, c'est vrai que là, la grosse différence qu'il y a, c'est qu'il y a un temps associé d'apprentissage. En fait, il faut vraiment voir l'outil comme ça. Je pense qu'il y a des outils aujourd'hui, donc sur le plugin qu'on a fait, on a exploité tout ce qu'il y avait dans Moodle, mais on n'a rien créé de nouveau. Hein. Celui-là, c'est vraiment fait pour gérer des temps, c'est administratif presque, hein. Il y a un temps d'apprentissage. Alors, est-ce que ça fait du sens ? Ça peut avoir du sens pédagogiquement. L'outil, il va être fait de toute façon, effectivement, des enseignants pourraient l'utiliser, avec peut-être une mouille, il y aura peut-être un intérêt pédagogique d'avoir le temps de travail, quoi, enfin, réaliser, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même, enfin, voilà. Si on se limite à ce que vous dites, est-ce que j'ai des problèmes d'étudiants qui sont assidus ou qui ne sont pas assidus ou qui sont en décrochage ? Je pense qu'on a quand même des outils dans Moodle aujourd'hui. Peut-être pas assez synthétique, pas assez... Voilà, c'est ça, l'intérêt aussi, ça, qu'on veut peut-être faire, c'est... j'y vois un intérêt dans ce que vous dites. C'est l'idée de rassembler plusieurs activités en un jalon. Et peut-être donc de simplifier la vue des enseignants qui, effectivement, c'est très... y a beaucoup enfin, ça prend beaucoup de temps, de surcharge, de suivre activité par activité. Si on regroupe un ensemble d'activités dans un jalon, ça a du sens, je pense, par rapport à votre question. C'est pertinent. Donc voilà, oui, de toute façon, qui peut le plus peut le moins. Cet outil-là ira jusqu'à l'attestation. Si on en fait une version, peut-être pour, avec différents rôles, un rôle enseignant de suivi, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Quoi.
Je me permets juste d'intervenir, parce que j'étais au Moodle Moot aussi. Ouais. En fait, c'est une problématique générale, mais plus sur les learning analytics. Il y a eu énormément de présentations, Patrick me confirmera, sur les learning analytics et les besoins des enseignants de suivre des formations, pas tellement des temps. Hein. Je trouve que c'est deux choses très différentes.
Là, on est sur un problème administratif français, voilà. Franco-français, le lien du financement de la formation continue. Voilà. C'est à ça qu'on veut répondre. On n'a pas
voilà. De transition, mais si ça sert à... Par contre, sur les learning analytics, j'ai vu deux très belles présentations, et quelque chose qui est fait à Louvain, qui s'est beaucoup inspiré de ce qui se faisait déjà à Laval, justement. Enfin bon, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses.